Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles. Pour les ouvrir, on va lire quelques passages ce matin dans la parole de Dieu. Nous nous concentrerons plutôt sur le livre du Cantique des Cantiques, mais nous lirons quelques autres textes pour appuyer cette prédication. Donc le premier texte se trouvera dans le premier livre de la Bible, donc dans Genèse, Genèse 2, et on va lire les versets 22 à 25. Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. » Deuxième texte, on va dans le livre des Rois, dans 1 Roi, chapitre 5. 1 Roi 5, on lira les versets 9 à 14. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezraïte, plus qu'Éman, le Calcol et Darda, les fils de Mahol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres depuis le cyprès du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et un dernier texte avant d'aller dans le Cantique, c'est Éphésiens 5. Dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, à partir du verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Jusqu'ici la lecture. Et nous allons maintenant dans le Cantique des Cantiques. Donc après psaume, proverbe, ecclésiaste, cantique. Et nous lirons le premier chapitre. Le cantique des cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi, nous courons à ta suite. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse et la joie grâce à toi. Nous célébrerons ta tendresse plus que le vin. C'est à bon droit que l'on t'aime. Je suis bronzée, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme la tenture de Salomon. Ne faites pas attention si je suis bronzé, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardé. Révèle-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons ? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces du menu bétail et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À la jument attelée au char du pharaon, je te compare, ô ma compagne. Tes joues sont charmantes au milieu des bijoux. Ton cou est beau au milieu des colliers. Nous te ferons des bijoux d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi était avec son entourage, le nard sur moi exhalait son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène dans les vignes d'Engedia. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le bien-aimé du Cantique des Cantiques est perdu sans sa bien-aimée. Et la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques est perdue sans son bien-aimé, son roi, son berger. Et de même, nous sommes perdus sans l'Esprit Saint face à la parole de Dieu. On compte donc sur sa présence aujourd'hui pour être saisis par lui. Donc aujourd'hui, je vais tenter de nous introduire dans un livre biblique particulier que le Collège d'Anciens a décidé dans la réflexion de la nouvelle série de prendre. Donc merci de prier pour moi. Ce n'est pas un récit de vie comme l'histoire de Joseph. Ce n'est pas un écrit prophétique comme Joël. Ce n'est pas une épître comme Philémon. En fait, c'est le seul écrit que nous avons de ce type, même si les psaumes peuvent s'en approcher. Mais il s'agit ici d'un cantique particulier. C'est un chant d'amour. Et le premier verset de ce livre biblique, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que c'est le cantique des cantiques. C'est en fait un superlatif. Ça signifie que le cantique qui est au-dessus de tous les autres, comme lorsque l'on dit « Seigneur des seigneurs »,« Roi des rois »,« Saint des saints ». C'est ce qui est au-dessus. Et certains juifs disent que les proverbes sont le parvis du temple, l'Ecclésiaste le lieu saint et le Cantique des Cantiques le lieu très saint. Parce qu'ils voient cette notion de la relation entre Dieu et son peuple dans ce livre. Salomon, qui est mentionné 7 fois dans ce cantique, en est l'auteur. Il a une sagesse exceptionnelle, il connaît la nature et a écrit 1005 cantiques, et celui-ci étant le sommet de tous. Certains ont dit que cela ne pouvait pas être Salomon avec son grand nombre de femmes. Comment pourrait-il écrire un poème tel que celui-là ? Mais nous partons de l'idée qu'il l'a écrit très tôt dans son ministère, alors qu'il était fidèle à la parole de Dieu sur ce point. Et beaucoup d'autres éléments nous permettent de le dire aussi. Le Cantique des Cantiques fait partie des 5 livres de sagesse utilisés lors des fêtes. Et lors des fêtes, en fait, les Juifs utilisaient 5 livres de sagesse, ce qu'on appelle les Megillotes. Il y avait Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther et le Cantique des Cantiques, qui était lu lors des fêtes. Et le Cantique des Cantiques est un livre rempli de métaphores qui, en fait, caractérise ce genre littéraire. Une métaphore, c'est une façon de dire quelque chose sans le dire directement. On pourrait dire que c'est une illustration de ce qu'on veut dire par des descriptions qui suscitent des sentiments ou la compréhension de ce qui se passe sans être explicite sur ce qui est dit. Et en fait, cette façon de parler permet de parler du sujet de la sexualité avec passion, vérité et pureté. Vous savez, le but dans ce livre, ce n'est pas que nous nous fassions une image mentale, d'imaginer quelqu'un avec des cheveux comme des troupeaux de chèvres, avec des dents comme des moutons, avec... Non, ce n'est pas l'idée. Et puis en plus de dire que cette personne, c'est la plus belle de toutes. Non, il s'agit d'utiliser des images des images mentales, mais pour saisir des vérités en lien avec le vécu des personnes concernées. C'est en lien avec le vécu. Et ces personnes le comprenaient. C'est en lien avec ce qu'ils avaient aussi vécu. Et ça, je trouve intéressant parce que Dieu, dans sa parole, avec ses métaphores, ses images qui sont données ici, permet à chacun, même à un enfant, de lire ce texte. Puisque l'enfant ne peut imaginer que ce qu'il connaît et ce qu'il a vu. Alors, protégez vos enfants de ne pas regarder des choses pour que, quand ils lisent ceci, ils restent purs, évidemment. Ainsi, ceux qui ont vécu, par exemple, l'acte conjugal seront en mesure de comprendre les allusions à ces différents aspects avec plus de clarté que ceux qui ne l'ont pas vécu, qui comprendront la signification des différents aspects sans pour autant se faire une image nette et ainsi rester pur. Ce chant a besoin d'être un peu accompagné, c'est vrai, pour bien saisir. Et je dois avouer que même si je le voyais dans sa profondeur et la pertinence de ce texte, j'ai sûrement pas toujours utilisé la bonne clé pour le saisir ou plutôt en être saisi. C'est un texte très utile pour les couples. En fait, il devrait être lu régulièrement ensemble et médité et compris parce que c'est Dieu qui l'a donné, particulièrement pour les couples. Le Cantique des Cantiques contient tout ce dont nous avons besoin pour bien saisir ce que Dieu a mis en place pour une sexualité épanouie et respectueuse, passionnée et bienveillante, dans le cadre d'une relation d'alliance fidèle, attentive et patiente. Voilà, je viens de vous dire plein de choses en même temps là. Alors je vais vous le redire parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Le Cantique des Cantiques contient tout ce dont nous avons besoin pour bien saisir ce que Dieu a mis en place pour une sexualité épanouie et respectueuse, passionnée et bienveillante dans le cadre d'une relation d'alliance fidèle, attentive et patiente. En fait, il permet de vivre les deux textes de Proverbe 5 et Hébreux 13. Proverbe 5 dit ceci, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Ça, c'est dans Proverbe 5, versets 18 et 19. Et Hébreux 13, 4 qui dit, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Les célibataires et aussi les plus jeunes ont besoin d'entendre le Cantique des Cantiques pour vivre en fait de manière à être prêt à le vivre si Dieu vous guide dans le mariage. Et même si le célibat est votre situation de vie pour plus longtemps, vous serez appelé à encourager les autres à vivre une sexualité épanouie selon Dieu. Et nous verrons aussi que ce texte peut même nous aider à grandir dans notre relation avec Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons un peu réfléchir à comment aborder le Cantique des Cantiques et dans un premier point, nous parlerons des différentes façons de comprendre ce livre. Je prends quand même un peu ce temps pour nous aider à comprendre pourquoi il y a tant de fouillis parfois lorsqu'on parle de ce Cantique des Cantiques. Ensuite, j'aimerais vous montrer que ce livre a plusieurs structures qui se superposent et dans notre dernier point, on fera le lien d'ailleurs avec la Genèse. Alors commençons par les différentes façons de comprendre ce livre du Cantique des Cantiques. Il y a trois façons principales d'aborder ce livre du Cantique des Cantiques. La première, c'est la méthode allégorique. La deuxième, c'est la méthode littérale ou naturaliste. Et la troisième, la méthode typologique ou parabolique ou figurative. On pourrait encore dire qu'il y a la méthode théâtrale ou encore le rassemblement de morceaux de poèmes sans lien les uns avec les autres, par exemple. Mais bon, ces dernières façons sont tellement loin du respect de la parole de Dieu que je ne les mentionnerai qu'en passant. Alors réfléchissons aux trois façons de comprendre ce livre qui, comme je l'ai dit, vous permettra aussi de comprendre pourquoi il y a des fois des foisonnements d'idées dans tous les sens par rapport à ce livre et que parfois on a de la peine à aller l'ouvrir. La première, la méthode allégorique. Généralement, les Juifs, à travers les siècles, considèrent que le Cantique des Cantiques doit être lu de façon allégorique. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Allégorique signifie que ce qui est raconté ne s'est jamais vraiment passé. C'est juste une façon de parler d'un sujet plus profond, celui de l'amour de Dieu pour son peuple. Donc on ne se base pas sur un fait qui s'est passé, c'est simplement des paroles qui sont utilisées pour parler de l'amour de Dieu pour son peuple. Et avec la façon allégorique de lire le Cantique des Cantiques, il faut trouver le sens caché de tout ce qui est dit. Donc si on s'engage dans cette direction-là, on ne s'y engagera pas, mais si on s'engage dans cette direction-là, eh bien, il faut trouver le sens caché de tout ce qui est dit. Chaque herbe, chaque plante, chaque lieu, chaque partie du corps, chaque image doivent trouver une signification spirituelle. Donc on doit chercher le sens caché et on doit trouver la signification spirituelle pour chaque élément. Et cette façon, aussi adoptée par beaucoup au début de l'Église, surtout suite à Origène, vont inventer toutes sortes d'interprétations fantaisistes qui ne sont plus en lien avec de solides principes d'interprétation biblique. Par exemple, le baiser devient la Sainte Cène. Ou bien les deux saints, c'est les deux chérubins du propitiatoire. Bon, je m'arrête. Il y a les 80 concubines qui sont les 80 hérésies contre l'Église. Bon. Il y a de quoi se poser beaucoup de questions sur l'appui biblique de telles affirmations. En fait, le texte biblique se lit naturellement en voyant des amoureux qui vivent un échange de paroles passionnées et orientées vers leur relation exclusive. Donc la deuxième méthodologie, c'est la méthodologie littérale ou naturaliste. C'est un poème, en fait, qui exalte l'amour humain et qui cherche à montrer sa juste place de la beauté de l'amour dans le mariage. C'est l'histoire d'amour d'un couple sans signification allégorique ou typologique. C'est un couple qui n'a pas de rôle de représenter autre chose. Et la clé d'interprétation est Proverbe 5:19, qu'on l'a lu tout à l'heure, et se concentre sur l'exaltation de l'amour du mariage conformément au plan de Dieu. Alors cette approche me semble utile. C'est la première, lorsque nous lisons un texte biblique, il faut absolument comprendre ce que veut dire l'auteur et comment les lecteurs le reçoivent. C'est très important quand on lit la Bible. Mais il existe un problème avec cette façon de voir. C'est que dans Luc 24, versets 27 et 44 et 48, Jésus enseigne qu'il est dans tout l'Ancien Testament. Il en est le sujet et le thème. Donc selon la méthode naturaliste, il n'y a pas de lecture à deux niveaux, car les auteurs ne pouvaient pas le savoir. Mais alors, Jésus aurait tort. Et d'ailleurs, bien d'autres ont écrit des choses sans savoir qu'ils étaient en train d'écrire à deux niveaux. Donc selon la méthode naturaliste, il n'y a pas de lecture à deux niveaux, car les auteurs ne pouvaient pas le savoir. Mais alors, comme je dis, Jésus aurait tort. Et bien d'autres auteurs ont écrit des choses sans savoir qu'il y avait, quand je dis deux, ça peut être plusieurs niveaux. Troisièmement, donc, la méthode typologique ou figurative. Donc, dans cette méthode, nous voyons les personnes réelles vivre des choses réelles. Comme par exemple, l'histoire de Joseph, qui est un récit historique, et en même temps, il pointe vers Jésus-Christ. Même si dans l'histoire, il n'y a jamais parlé de Jésus-Christ. Ok ? Dans la typologie, nous comprenons que le récit ou le cantique suggère des vérités spirituelles, sans devoir par contre s'attarder sur tous les détails, comme le fait l'allégorie. Et puis moi, j'aime bien ce que dit le docteur Campbell Morgan ici pour définir cette façon de voir le cantique. Il convient d'aborder ces cantiques tout d'abord comme des chants à la fois simples et sublime de l'amour humain. Une fois le poème compris ainsi, les pensées peuvent alors s'élever avec révérence vers la valeur plus élevée des joies de la communion entre l'esprit de l'homme et celui de Dieu, et finalement entre Christ et l'Église. Ainsi, en fait, nous n'avons aucun problème de voir la beauté du mariage et de la sexualité que la méthode naturaliste souligne. Ce cantique permet de parler des choses intimes, sans convoitise ni impureté. C'est la force de la parole de Dieu. Et nous pouvons y voir Christ. Chaque mention de son amour nous pousse à désirer une communion encore plus étroite avec lui. Et Stuart Olliott, qui a écrit un commentaire sur ce livre, dit ceci, j'aime bien ça. nous sentons l'impossibilité de vivre sans lui et le désirons comme jamais auparavant, donc sans Christ, hein, et nous le désirons comme jamais auparavant. Nous ne venons plus à ce livre de façon académique, mais sa lecture devient une expérience spirituelle précieuse. Donc la méthode typologique nous pousse à comprendre le texte dans la passion des amoureux avec tact et sagesse. Donc ça nous pousse à comprendre hein, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre avec tact et sagesse, cherchant à comprendre les symboles pour leur signification dans cette relation. Et ensuite, donc les symboles comme les chèvres, comme les moutons, enfin ces choses-là. Hein. Et ensuite, ayant compris cela, nous pourrons prendre du recul et faire le lien avec le modèle que tout mariage est appelé à refléter, Christ et son Église. Puisqu'en fait, tout mariage est appelé à refléter cette relation entre Christ et l'Église. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas Christ et l'Église qui reflètent nos mariages. C'est nous qui sommes appelés à refléter Christ et l'Église. Maintenant qu'on a pu parler un peu de l'approche de ce livre, voyons aussi encore une chose avant de nous plonger dans la structure, c'est le nombre de personnages. Ça, c'est aussi il y a toutes sortes d'histoires qui ont été racontées là-dessus. Donc habituellement, et je vais aller dans ces directions-là, nous voyons Salomon et la Sulamite, qui sont les personnages principaux, avec aussi, on rencontre des gardes de la ville, les filles de Jérusalem, et une voix off, qui pourrait être un cœur. C'est ainsi qu'on va le voir ensemble. Juste en passant, je me demande d'ailleurs si le nom de Sulamite n'est pas une féminisation de Salomon, qui montrerait l'unité du couple qui se fond l'un dans l'autre. Bon, je referme la parenthèse. Mais d'autres ne voient pas deux personnes ici qui se parlent, mais en voient trois. Ce serait une bergère, la Sulamite, qui est amoureuse d'un berger. Et puis Salomon, le roi, vient tenter et séduire la Sulamite qui, en fin de compte, ne se laisse pas avoir et part avec son berger. C'est une autre façon de voir le cantique des cantiques. Le problème de cette façon de voir est que Salomon devient un tentateur de la pire espèce. Et les champs de séduction ne sont plus clairement vécus dans le cadre du mariage. Et cela semble quand même contredire le reste de la Bible. Et je ne prends pas plus de temps pour ce sujet. Mais je l'ai soulevé, donc c'est ce berger, etc., pour ceux qui l'entendraient. Parce que c'est des choses qui se disent, mais qui sont aussi de date plus tardive. Le texte donc parle de Salomon, le bien-aimé, celui que son cœur aime, son berger, son roi, qui s'entretient avec la Sulamite, sa compagne, sa colombe, sa sœur, sa parfaite, sa fiancée. Maintenant que nous avons vu que nous prenons la direction de la typologie, c'est-à-dire le texte comme une réalité, en cherchant à comprendre ensuite à faire les liens avec Christ en ayant compris la réalité, que le nombre de personnes est clair, Salomon et la Sulamite, allons voir la structure du livre. Et nous trouvons plusieurs refrains. Alors là, il faut prendre vos Bibles avec le cantique parce qu'on va un petit peu aller voir dans ce livre à plusieurs endroits. Et on voit un refrain qui revient trois fois, par exemple, qui est au chapitre 2, verset 7, qui dit ceci, vous pouvez aller regarder, hein. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » Chapitre 3, verset 5, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le souhaite. » Au chapitre 8, verset 4, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » Cela nous montre en fait que ce chant est un tout. Certains veulent dire que c'est plein de petits chants, tout séparés, etc. C'est un des éléments qui nous permet déjà de voir que c'est un tout. C'est un thème important. D'ailleurs, ce thème ici de ne pas réveiller l'amour est un thème important et qui permet et qui nous aide à gérer aussi les relations amoureuses avant le mariage. Je dis souvent à ceux à qui je parle, n'ouvrez pas la vanne. Ceux qui me connaissent ont déjà entendu cette expression-là. Vous pouvez imaginer un barrage avec beaucoup d'eau représentant les sentiments amoureux. Beaucoup d'eau là qui sont derrière. Mais si une brèche est faite, le barrage est ouvert, la vanne est ouverte, il sera difficile de ne pas laisser passer beaucoup d'eau alors que la relation n'est pas encore dans un chemin d'alliance sûre. Donc lorsqu'on est dans une tente d'amourette, on est en train de voir est-ce qu'on a des sentiments, etc. Moi je dis n'ouvrez pas la vanne. Ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas avant qu'elle le veuille. Nous y reviendrons sûrement dans l'étude du livre. Un autre refrain revient aussi à trois reprises. C'est un refrain qui est juste magnifique. Chapitre 2, verset 16. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Il fait paître son troupeau parmi les lys. Chapitre 6, verset 3. Alors, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Au chapitre 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Alors moi, je vous encourage à le lire et à voir tous les liens qu'il y a. Moi, je me suis fait sur mon bureau le Cantique des Cantiques sur 4 feuilles, comme ça j'ai tout devant mes yeux. Et puis d'un petit peu sentir qu'est-ce qui se passe dans ces dialogues. Hein, et de voir qu'il y a une unité en fait qui se voit dans ce texte. Et on voit aussi une progression. Une progression et selon la structure choisie, nous voyons différents sommets. On n'a pas les mêmes sommets selon la structure qu'on en va prendre. Parce que je pense d'ailleurs qu'il est possible de lire ce cantique de différentes manières pour donner différents éclairages qui ne se contredisent pas. Donc il y a différentes progressions dans ce cantique qui donnent différents sommets. Et donc il est possible d'avoir différentes structures. Et je vais vous en présenter 2 aujourd'hui qui m'ont paru intéressantes et utiles pour comprendre le cantique des cantiques. Alors le premier, on va commencer par le sommet, on arrive au sommet quelque part, eh bien se trouve au chapitre 8. Regardez avec moi le chapitre 8, les versets 6 et 7. Ça, c'est le sommet de la première structure. Et là, il est dit, donc chapitre 8, verset 6, « Mets-moi comme un sceau sur mon cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est dure comme le séjour des morts, ses fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. » Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne la submergent pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. C'est ici un sommet dans ce texte du Cantique des Cantiques. D'ailleurs, c'est le seul endroit où nous avons la mention de Dieu dans tout le livre et qui indique que cet amour qui a son origine en l'Éternel est solide et ne peut pas être détruit. Ainsi, si on regarde l'ensemble de ce chant en 3 parties, avec ce sommet-là, on a le temps des fiançailles, raconté par la Sulamite, qui se souvient de ce temps où Salomon l'a courtisée. C'est les chapitres 1 à 3. Ensuite, nous voyons les noces elles-mêmes, avec le cortège nuptial et la nuit de noces. Et puis ensuite, 3e partie, la vie commune des époux, avec un cauchemar d'abord, l'affermissement de l'amour et le rappel de la pureté. Dans le mariage et dans l'affermissement de l'amour, on arrive à ce sommet de qu'est-ce qu'est un amour qui est solide. Et nous allons un peu suivre cette structure dans les prédications que l'on va avoir sur le cantique. Mais j'aimerais vous présenter une autre structure qui m'apparaît intéressante pour saisir un autre élément. Et cette structure a pour point central le milieu du livre, dans les versets 16 du chapitre 4 au chapitre 5, verset 1, hein, où il est dit « Éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et que ses aromates s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits exquis. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je recueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse. Cette seconde structure, avec ce sommet-là, veut placer le moment en fait, où l'homme et la femme se donnent pour la première fois l'un à l'autre au centre. Et le reste est organisé en parallèle concentrique, qu'on appelle aussi en chiasme. Et donc, je vais vous montrer les parties. Alors là, sur le document que vous avez pu prendre, il est derrière, ça aide à suivre si vous voulez. Donc là, vous avez cette structure en concentrique, donc en chiasme. Et nous voyons là des éléments que l'on voit au début du livre et à la fin du livre. Par exemple, au début du livre, on va parler d'une vigne. Et à la fin du livre, on va parler d'une vigne. On ne va plus en parler du tout durant tout le livre. Donc il y a un écho qui se fait ici. Hein. Et dans les 2 cas, on a une invitation à l'amour. Au début, ça sera par anticipation et à la fin, ça sera par vécu. Hein, il y a aussi un contraste, mais il y a un écho. Ensuite, nous avons, deuxième partie, le bien-aimé qui invite à un voyage dans la campagne. Viens avec moi dans la campagne. Et on voit plus loin que le bien-aimé, donc au chapitre 7, invite de nouveau à un voyage dans la campagne. Donc on a ces deux notions qui se retrouvent. Je ne peux pas aller dans tous les détails de pourquoi et comment, hein, mais je vous donne déjà un petit peu les éléments. Ensuite, on a trois éléments. Il y a le centre, puis de nouveau trois éléments. Puis ceux-là, ils sont dans un ordre, hein, et puis ensuite dans le même ordre de l'autre côté. Et ils commencent les deux par un rêve. Le rêve de le premier de perdre et de retrouver. Dans la deuxième partie, c'est carrément un cauchemar. On voit cette notion de la perte qui est là, de qui est imaginée, qui est vécue dans son rêve. Et puis après cela, on a deux chants. On a le chant du bien-aimé qui célèbre la beauté de la bien-aimée, qui célèbre la beauté du bien-aimé. Et puis ensuite, en parallèle, de nouveau un chant qui célèbre la beauté du bien-aimé par la bien-aimée. Et puis en réponse, le bien-aimé qui a un chant face à sa bien-aimée, qui fait écho à un autre chant du bien-aimé face à sa bien-aimée. Hein, si vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques, c'est là où il y a la description des personnes et qui sont telles qu'on parlait avant de ces chefs de gala des compagnies. Et au centre, on a la femme qui invite l'homme à manger du fruit du jardin. Et nous entendons une voix d'approbation qui se fait entendre. Et cette structure concentrique, en fait, correspond aussi bien à la poésie hébraïque, qui en fait se faisait souvent des échos, des parallèles d'idées. Hein. Nous, on fait par rime dans la poésie hébraïque, c'est par idées. Et si la découverte de l'acte conjugal est au centre, ce qui se passe avant et après n'est pas identique, même s'il y a des similitudes. Donc on a une structure qui est un petit peu les différentes étapes. On a une structure qui nous montre cette étape jusqu'à ce moment où le fruit est mangé, si vous voulez. Hein. Et c'est des accents différents qui sont posés dans le cadre du livre des Cantiques. Et dans l'un d'eux, pour la structure en chiasme, eh bien, elle fait un lien avec la Genèse. Et c'est le dernier point, je vais regarder avec vous aujourd'hui. C'est ce lien avec Genèse que j'ai trouvé vraiment intéressant. On voit aussi un chiasme dans le livre de la Genèse, qui est très intéressant en lien avec le Cantique des Cantiques. De nouveau, vous trouvez la structure au dos du document. Ça, c'est dans Genèse, au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. On a, quelque part, Dieu qui introduit l'homme dans le jardin. Il le place quelque part. Il l'introduit dans le jardin. En opposé, on a, quand ils sont chassés du jardin, Dieu il les place ailleurs. Dieu place, en fait, l'homme et la femme quelque part. Ensuite, on a les relations qui sont harmonieuses dans Genèse 2. Et malheureusement, l'écho en face, alors cette fois-ci, on n'est plus dans un écho parallèle qui est identique, c'est un écho antithétique, c'est-à-dire qui est inversé. Donc, une harmonie de relations, malheureusement, les relations qui sont désintégrées. Ensuite, on a, après l'harmonie, un dialogue entre le serpent et la femme. Et là, en écho, on a un dialogue entre Dieu et l'homme et la femme, après la chute, en fait. Et au centre, vous avez la femme qui mange du fruit défendu et invite l'homme à manger. Alors c'est intéressant, parce que si nous regardons le sens de la structure, nous verrons dans la Genèse qu'une femme, dans un jardin, donne un fruit à l'homme et l'invite à manger. Nous sommes en fait dans une situation dramatique, hein, qui va plonger la descendance dans le péché, et l'homme accepte sans rien dire, et une voix de désapprobation se fera ensuite entendre. Vous voyez un petit peu le schéma ? Donc si on regarde la structure dans la Genèse, donc une femme dans un jardin qui donne un fruit à l'homme et l'invite à manger. Et en fait, l'homme l'accepte sans rien dire, et une voix de désapprobation se fait entendre par la suite. C'est Dieu qui désapprouve. Alors que le centre du Cantique des Cantiques, c'est comme une rédemption. Nous avons à nouveau un couple dans un jardin. La femme propose le fruit à manger et l'homme répond positivement en indiquant ce qu'il va faire. L'homme ne se tait pas ici. Et une voix d'approbation est entendue. Mangez, buvez, enivrez-vous de tendresse. Et cela ouvre à une descendance possible. Le dialogue entre l'homme et la femme ne s'arrête pas dans le Cantique des Cantiques. Et nous arrivons même à ce sommet tellement fort de Cantique des Cantiques 8, versets 6 et 7, qu'on a lu tout à l'heure. hein, qu'on peut relire, parce que c'est un texte qui est très fort, qu'on va étudier ensemble, évidemment. Hein, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergent pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. » On a mis un pied dans le livre ce matin. On a cherché à commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans ce livre. C'est un chant d'amour entre un homme et une femme qui s'aiment. C'est un livre qui va nous pousser à réfléchir à la relation de couple, comment elle se prépare, comment elle se vit, comment nous devons l'encourager. Donc ce livre va nous pousser à réfléchir à ces choses-là, la relation de couple, comment elle se prépare, comment elle se vit et comment nous devons l'encourager. Et nous voyons aussi ce lien avec Christ, l'époux de l'Église selon Éphésiens 5, le bien-aimé avec qui nous souhaitons une relation toujours plus profonde, fidèle, simple, remplie d'amour passionné. Et je vous assure que si vous vous arrêtez à prendre ce livre, à chercher à le comprendre, à le saisir, vous serez plus proche de Christ. Ce n'est pas possible autrement si vous le faites guidé par l'Esprit de Dieu. Notre croissance dans la foi est fondée sur l'amour que nous portons à Christ. C'est le fondement. Ce n'est pas la connaissance de Christ. C'est l'amour que nous portons à Christ qui va nous faire croître et qui sera manifeste dans nos cercles relationnels depuis le plus étroit, celui du couple. Et Jean souligne l'importance de cet amour de Dieu, hein, dans Jean 1 Jean 4, versets 16 à 19. Vous pouvez regarder, 1 Jean 4, 16 à 19. Qui dira « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. » Dieu est la source de l'amour qui est parfait. Et c'est de cette source que nous pouvons ensuite vivre et donner un amour pur, passionné, fidèle, engagé à nos conjoints. Et que ce soit le ciment des familles, de l'Église et de la société. Et ainsi, nous allons prier que Dieu nous guide dans cette étude. Vous dites, mince, il vient de commencer la prédication. C'est maintenant qu'on arrive, ben, faudra venir la prochaine fois pour la suite. Et aujourd'hui, on va encore prier que Dieu nous guide. Et je vous encourage à méditer ce livre du Cantique des Cantiques. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi ce matin avec un cœur rempli d'admiration parce que tu es capable de parler de choses qui sont extraordinaires et que l'homme dans sa chute a tordu de façon terrible. Mais toi Seigneur, tu peux en parler d'une manière qui est belle, d'une manière qui nous encourage à renouveler notre pensée sur le sujet aussi de la relation conjugale, d'une manière qui t'honore, d'une manière qui, et nous te prions Seigneur, qui soit de plus en plus et durant toute cette série que nous puissions être Seigneur lavés de toute cette influence que nous avons reçue du monde, qui nous a détournés de ton plan parfait. Et permets-nous Seigneur de comprendre ce que cela signifie dans notre relation avec toi. L'apôtre Paul l'a très bien dit dans Éphésiens, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais Seigneur, ce mystère, tu veux que nous y entrions, que nous entrions dans ce mystère, parce que c'est une relation forte que tu désires aussi avec tes enfants, avec ceux que tu as créés, ceux que tu as créés à nouveau, ceux que tu rachètes afin que nous puissions avoir une relation tellement forte et profonde avec toi que nous le désirions tous les jours, tout le temps, parce que c'est tellement bon. C'est mon désir, Seigneur, c'est que chacun nous puissions entrer dans ce chemin d'une intimité avec toi qui est si forte qu'en fait, rien d'autre ne nous intéresse vraiment que de retrouver cette intimité avec toi. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions vivre aussi nos relations les uns avec les autres d'une manière qui t'honore, qui manifeste ta grâce, ta pureté aussi, ta bienveillance. Tu as, Seigneur, le sujet aussi de la sexualité qui pose un grand problème dans notre monde, qui pose un si grand problème que les chrétiens n'osent même plus en parler. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'en parler d'une manière qui t'honore, d'une manière qui soit juste, qui soit bonne, qui ne suscite pas des mauvaises choses, mais qui nous encourage à vivre ce qui est bon selon toi. Je te prie de protéger particulièrement les enfants et les jeunes qui, en fait, ne devraient rien avoir vu dans leur vie jusque-là et qui pourraient lire ce cantique des cantiques innocemment, sans problème. Protège ceux qui sont protégés et que ceux qui ont déjà vu des choses, Seigneur, qu'ils puissent en être purifiés par ta grâce. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.